الحديث أظن فيه لبيب. Et Seigneur, que ta parole soit maintenant notre nourriture spirituelle. Nos corps ont besoin de manger, de boire, pour agir, pour grandir, pour les enfants, pour avoir de la force, pour vivre tout simplement. Mais nos esprits ont besoin de la nourriture qui est ta parole, également pour grandir, pour être en bonne forme. Nous voulons comprendre, Seigneur, le message que tu nous donnes ce matin, alors que ton esprit vienne illuminer cette lecture, cette méditation. Nous savons que nous l'avons chanté au début du culte, au milieu de nous. Et tu es au milieu de nous par ta parole. C'est un miracle qui se répète depuis toute éternité. Tu es parole. Ton fils Jésus-Christ était ta parole incarnée. Et encore une fois, nous voulons vivre de cette parole. Amen. Amen. Le premier des trois textes proposés pour ce matin se trouve dans le prophète Ésaïe, au chapitre 40. Ésaïe 40, donc du verset 1 jusqu'à 8. Ésaïe 40, 1 à 8. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie !» et l'on répond « Que crierai-je ? » Toute chair est de l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Nous lisons ensuite dans l'évangile de Marc, au tout début, chapitre 1, verset 1, évangile selon Marc, et nous lirons jusqu'au verset 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau. » Mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Et enfin, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, donc 2 Pierre 3, les versets 8 à 14. 2 Pierre 3, 8 à 14. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Voilà, c'est effectivement, comme Daniel l'a dit, le deuxième dimanche de l'Avent. Nous sommes donc en plein milieu de cette période de l'Avent. L'Avent, ça serait dommage que ce soit simplement une période, un temps ou simplement un compte à rebours, où on raye les jours jusqu'à Noël, ou même jusqu'au réveillon, ne serait-ce que sur un calendrier de l'Avent. Chaque jour, on ouvre une petite fenêtre et il y a un petit chocolat dedans. Bon, c'est sympa, mais c'est quand même un petit peu réducteur. Nous savons que cette période de l'Avent est un temps de... un temps d'attente, mais je crois qu'il faut que cette attente ne soit pas passive, bien au contraire qu'elle soit active, productive, constructive, n'est-ce pas? De quelle façon? Eh bien, c'est ce que je crois que ces trois textes nous disent à eux trois, hein, ils nous montrent un petit peu le chemin pour que effectivement ce temps de l'Avent soit vraiment un temps spirituellement positif, qui nous apporte quelque chose, qui ne soit pas simplement une simple attente. Voilà. Alors, commençons par revenir sur cette prophétie d'Ésaïe. Qu'est-ce qu'Ésaïe annonce là, vraiment, de façon assez directe? Il annonce, parce que le langage prophétique est toujours un petit peu imagé, ce qu'il annonce, c'est un événement qui a eu lieu il y a fort longtemps, qui a eu lieu aux alentours de l'an 539 avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 2500 ans. À cette époque, le peuple d'Israël était captif à Babylone, hein, déporté. Et ce que Ésaïe annonce dans ce texte, par sa prophétie, eh bien c'est tout simplement que le Seigneur va les délivrer de la captivité. Alors il se trouve qu'effectivement en 539, ça c'est historique, hein, c'est pas seulement biblique, c'est attesté, en 539, les Perses, l'empereur perse, Cyrus, va définitivement anéantir l'empire babylonien, de façon très, très rapide et très facile d'ailleurs. Et Cyrus, l'empereur perse, va autoriser les Juifs à rentrer dans leur pays, à rebâtir Jérusalem et surtout le temple. Et ça, c'est vécu un petit peu comme la fin de l'esclavage en Égypte, hein, la sortie d'Égypte. C'est vécu comme un événement absolument merveilleux, extraordinaire, et ça a marqué d'ailleurs le peuple d'Israël pour toujours, hein, la libération de la captivité de Babylone. Et ce qu'il annonce exactement, c'est ce temps préparatoire à la délivrance. Hein, ça paraît curieux, on dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ouvrez le chemin de l'Éternel, ok, niveler dans la steppe une route, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Alors c'est curieux, l'exhortation qui est contenue dans cette prophétie invite les gens à prendre un bulldozer et puis tout raser, les collines, remplir les vallées, etc. Alors bien sûr c'est une image, c'est un langage imagé qui veut dire enlever tous les obstacles à l'arrivée de Dieu, de l'œuvre de Dieu qui va faire quelque chose d'immense pour vous, quelque chose de grandiose. Et donc tout ce qui peut gêner la progression de Dieu dans son œuvre, eh bien dans ce temps de préparation que la prophétie avance, eh bien c'est le moment d'éliminer ces obstacles. Et puis, il se trouve que tous les exégètes de la Bible, tous ceux qui se sont penchés sur les mystères de la Bible, sans tenter qu'il y ait des mystères, ont vu dans cette prophétie d'Ésaïe une deuxième réalisation. Alors là, vous savez, on est habitué, on y revient souvent, hein, on en parle souvent. Les prophéties dans la Bible, elles ont cette caractéristique qu'elles ont, non pas une, mais parfois deux, et parfois trois, et parfois plusieurs accomplissements, n'est-ce pas ? Ce qui est très intéressant d'ailleurs, puisque le deuxième accomplissement est crédibilisé par la réalisation du premier. Vous voyez. Alors, quel est ce deuxième accomplissement ? Eh bien, j'espère que ce n'est pas tout à fait une surprise pour vous. Eh bien, c'est l'arrivée du Seigneur Jésus, c'est-à-dire du Christ, qui vient pour lui aussi libérer son peuple. Alors, de façon imagée, hein, libérer du péché, le libérer de l'esclavage du péché, de la captivité du péché. Alors donc, on a une prophétie à double accomplissement, hein, et effectivement, là, une fois de plus, l'exhortation qui est contenue dans cette prophétie, elle est aussi imagée, niveler, enlever tous les obstacles. Le Christ arrive pour vous offrir la grâce de Dieu, pour accomplir en vous une œuvre extraordinaire de Dieu, et pas qu'il y ait des choses qui l'empêchent d'accéder à vos cœurs, à vos vies. Donc, niveler le terrain, en gros, on a cette notion voilà, de préparation, de défrichement du terrain. Et, alors j'en veux pour preuve que c'est pas de mon imagination que tout ça sort, c'est que nous avons lu le texte de Marc, le début de l'évangile de Marc, mais si vous regardez bien chez vous, les quatre évangélistes, pas seulement Marc, les quatre évangélistes ont récupéré cette prophétie, ils ont fait ce qu'on appellerait maintenant un copier-coller, hein. Ils l'ont récupéré, ils l'ont intégré dans leur évangile pour illustrer quoi ? Pour illustrer l'entrée en scène, non pas de Jésus, mais de Jean-Baptiste. Très intéressant. On voit, bon, Marc a fait très court, hein. Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Voilà, il n'y a plus qu'un extrait, il a un petit peu condensé la prophétie. Et c'est bien celle-là qui est citée. Bon, tout ceci est très intéressant. Mais on peut quand même se dire, parce qu'on est même toujours un peu esprit chanin, on peut se dire, bon, oui, c'est intéressant, mais bon, déjà, cette prophétie, par rapport à la libération de Babylone, enfin, l'exil du peuple d'Israël à Babylone et le retour à Jérusalem, bon, c'est quand même de l'histoire ancienne, ça ne nous concerne pas directement, ça a un intérêt, oui, l'intérêt du témoignage de l'œuvre de Dieu pour son peuple, ce qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas ? Alors, par contre, dans l'évangile selon Marc, cette prophétie, elle prend une autre couleur, puisque là, Marc annonce cette période préparatoire à l'entrée en scène de Jésus, qui est, eh bien, l'entrée en scène de Jean-Baptiste. Alors, effectivement, Jean-Baptiste est tout à fait emblématique de ce temps de l'Avent. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que la mission de Jean-Baptiste n'est faite uniquement que de préparation. Il n'est là que pour préparer le terrain à son cousin, c'est son cousin qui a 6 mois de moins que lui, son cousin Jésus. Et donc, Jean-Baptiste répond à l'exhortation de la prophétie d'Ésaïe, il prépare le terrain. Alors, de quelle façon ? Il s'est mis au bord du Jourdain et il s'est mis à interpeller les foules en leur disant, le message qui est condensé, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, il arrive. » Vous voyez, on est dans ce temps de l'Avent, qui est plus le temps de l'entrée en action de Jésus que sa naissance à Bethléem. Bon. Bien sûr, sa naissance, on s'en réjouit, mais elle est symbolique, alors que le moment où Jésus entre en scène, c'est pas un symbole, c'est vraiment dans l'action pure. Alors donc, Jean-Baptiste et tout entier tourné vers sa mission. C'est d'ailleurs, petite question comme ça au passage, vous êtes jamais demandé pourquoi il il est précisé dans la Bible qu'il avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins et qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Qu'est-ce que ça peut nous faire? C'est la première question qu'on peut se poser. Bon, très bien, il est habillé de poil de chameau, bon, ça ou autre chose. Puis manger des sauterelles. Bon, il paraît que c'est plein de protéines, de trucs nourrissants. L'avenir, paraît-il. Et dans la nourriture à base d'insectes. Bon, miel sauvage, pas mauvais. Pourquoi? Pourquoi la vie? C'est une petite parenthèse. Hein. Ça montre à quel point Jean-Baptiste se fichait éperdument de son vêtement ou de sa nourriture, tellement il était obsédé, omnibulé et concentré sur sa mission qui était de défricher le terrain pour Jésus. Il prenait à peine le temps de manger, il fallait qu'il mange sinon il serait mort. Il tient des sauterelles, craque, peut-être qu'il ne les faisait même pas cuire. Son vêtement, il avait mis un vêtement de poil de chameau qui ne devait être pas spécialement à la mode de l'époque. Peu importe, il était habillé, voilà. Et là, il était tout entier tourné vers sa mission, qui d'ailleurs ne s'arrêtera que parce que Hérode le jettera en prison et il le fera décapiter. N'est-ce pas? Préparer les chemins du Seigneur. Et effectivement, Jean-Baptiste a merveilleusement rempli sa mission, puisque quand Jésus est arrivé, très très rapidement, il a eu un auditoire, justement préparé un auditoire qui était déjà dans la démarche de la grâce offerte par Dieu, puisque Jean-Baptiste les avait préparés, les avait baptisés, ils s'étaient repentis. Et nous avons pu voir il y a quelques dimanches que la repentance est la base absolue, non seulement la base, mais finalité absolue pour recevoir la grâce de Dieu. Bon, mais comme on est quand même toujours des esprits chagrins, on se dit, bon, même ça, c'est bien. Là, on est un peu plus concerné, parce que quand même, on est concerné par la grâce offerte par Dieu en Jésus-Christ, etc. Mais en fait, c'est le passé. C'est il y a 2000 ans. Donc, le temps de l'avant, ce serait quand même guère qu'une commémoration, ce serait guère qu'un anniversaire, n'est-ce pas? C'est toujours sympa de fêter un anniversaire. On fait beaucoup dans notre vie d'église, mais c'est toujours le passé. Eh bien non, justement, et c'est là la merveille de la parole de Dieu, c'est que finalement, figurez-vous que cette prophétie, eh bien, elle aura une troisième réalisation, un troisième accomplissement, si vous préférez. Vous le savez, c'est évidemment le retour de Jésus-Christ sur terre pour ce qu'on appelle la fin du monde, le jugement dernier, ce jour où il viendra enlever son église, enlever les élus et est dit dans l'épître de Pierre où les cieux, comment il dit ça, les cieux se dissoudront, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, donc la vraie fin du monde telle qu'on l'imagine, hein, voilà, tout sera consumé. Et donc, eh bien, nous revoilà réellement dans une situation d'attente vraie, non pas la commémoration d'une attente. Parce que quand on commémore Noël, la nativité, Jésus qui naît à Bethléem, on est dans l'anniversaire, dans la commémoration d'une attente, d'une naissance. C'est joli, il y a le sapin, il y a les bougies, on est dans la poésie. Là, on est dans la réalité, on est vraiment, actuellement, nous on vous parle, on est dans l'attente, donc dans l'avant du Seigneur, l'attente du retour du Seigneur. Alors, eh bien, que ferons-nous? Encore une fois, revenons à la prophétie de l'exhortation qui est dans la prophétie d'Ésaïe, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, nivelez et comblez les vallées, arasez les collines, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit là, Ésaïe, pour nous, chrétiens du 21e siècle, qui attendons le retour du Seigneur Jésus? Eh bien, il nous dit, peut-être il le savait maintenant qu'il nous le disait, hein, mais il nous dit très clairement, balayez tous les obstacles qui sont dans vos vies. Balayez tous les obstacles, les barrières, tout ce qui peut gêner l'action du Seigneur. Qui veut quoi? Qui veut déferler dans votre cœur. Qui va débouler, il faut qu'il y ait un boulevard pour vous atteindre. Un boulevard, vous savez, c'est bien droit, c'est bien large, c'est bien plat. Et bien voilà l'exhortation de ce matin que nous donne Ésaïe. Préparez le chemin du Seigneur. Donc il me semblait, oui, encore une fois, intéressant que nous soyons non pas dans une simple commémoration. Dès qu'on parle de l'Avent, on parle de Noël, ah, on a des images, on voit des gens sur des chameaux, etc. Des images d'il y a 2000 ans. Non. L'Avent, il faudrait qu'on se mette, le plus souvent, se mettre dans l'attitude de quelqu'un qui attend quelque chose vraiment. J'attends le retour du Seigneur. Et je ne l'attends pas passivement, comme je vous ai dit au début, c'est pas une attente passive, c'est une attente active. Donc, au travail, je déblaye tous les obstacles. Alors, je vous ai dit tous les obstacles dans mon cœur, dans ma vie, pour que le Seigneur puisse m'atteindre et me trouver juste. Alors là, on est dans l'épître de Pierre, hein, comme je vous l'ai lu. Et notamment quand il dit, le dernier verset 14, c'est pourquoi, bien-aimé, dans cette attente, dans cet avant, nous sommes dans l'avant, efforcez-vous d'être trouvé par lui sans tâche et sans défaut dans la paix. Ou, alors, je suis reconnaissant envers Pierre qu'il est marqué efforcez-vous, et non pas soyez sans tâche et sans défaut, parce que alors là, raté. Moi, sans tâche et sans défaut, mission impossible. Heureusement, Pierre a prévu la petite porte de secours, efforcez-vous, c'est-à-dire, vous n'y arriverez pas, mais faites tous vos efforts pour y arriver. C'est-à-dire, c'est un but, c'est une cible. Et le Seigneur s'en contente. Si nous faisons tous nos efforts pour être trouvés devant lui, par lui, sans tâche et sans défaut, il s'en contente. Ça ne veut pas dire qu'il va nous trouver réellement sans tâche et sans défaut, n'est-ce pas? Nous sommes dimanche après dimanche dans l'obligation de confesser nos péchés, parce que la mission pour nous d'être sans tâche et sans défaut dans la paix est impossible. Et, ah oui, encore une autre chose, qu'une pas directement dans ces lignes, et que je ressens, c'est que ce travail préparatoire, j'allais dire qu'il consiste à aller chercher un bulldozer et raser le paysage, hein, alors, de façon imagée, hein, passer le bulldozer dans les pour pas aplanir tous les obstacles, il ne concerne pas justement que nos vies. N'oublions pas que le Seigneur Jésus, avant de rejoindre le Père, au moment de l'ascension, il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce qu'il disait intrinsèquement dans cette parole, c'est préparer mon retour. Là aussi, faites exploser tous les obstacles, dégagez-moi tous les problèmes, les obstacles qui peuvent m'empêcher d'aller atteindre tous les hommes que j'aime. Pas seulement vous êtes mes disciples, je vous aime, j'aime aussi les autres et je vous. Là, je suis en train de vous parler de l'évangélisation. Elle fait partie, là aussi, de l'exhortation qui est dans la prophétie d'Ésaïe. C'est-à-dire, ok, vous faites le ménage dans vos vies, vous essayez de doter tous les obstacles qui peuvent empêcher le Seigneur de vous atteindre dans vos cœurs, mais ce n'est pas fini, il y a aussi le même travail à faire chez les autres, c'est-à-dire les inviter aussi à faire ce même travail, c'est-à-dire les enseigner, c'est-à-dire leur apporter la parole de Dieu. Alors vous voyez, la tâche est immense, c'est-à-dire que c'est pour ceux qui se réjouissent d'être dans une situation d'attente confortable, où il va arriver, il n'y a plus qu'à prendre. Bon, ils ont tout fou parce qu'il va falloir se remonter les manches, sauf si je fais erreur. Et si vous êtes d'accord avec moi, ça veut bien dire que ce temps de l'avant, il nous invite à un temps de travail, d'action, et non pas d'attente passive. Voilà, et bien, on était un peu court aujourd'hui, mais j'espère dense. Hein, il s'agit de qualité, pas de quantité, n'est-ce pas? Sinon je peux vous raconter des poèmes aussi, pour faire durer un petit peu. Mais que le Seigneur nous donne cet esprit de zèle, parce que le plus fort, c'est que c'est plus une contrainte. C'est, je crois que toute la joie d'être chrétien, elle repose dans cette attente active. C'est-à-dire, oui, on attend impatiemment, hein, oui, que Pierre a été obligé d'écrire ces lignes en disant certains d'entre vous, comment il dit ça, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Hein. Alors les pauvres malheureux, ils s'impatientaient. S'ils avaient su que 2000 ans après eux, c'était toujours passé, hein. Ils avaient toujours dans l'attente. Hein. Il use de patience, il ne veut pas qu'aucun périsse, etc. Bon. Donc j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Oui, la joie d'être chrétien, c'est d'être dans une attente constructive, de travailler à... Et il y a toujours cette notion de hâter l'avènement du Seigneur. Parce que dans le fond, Dieu s'est fixé, il a fixé un jour où il y aurait suffisamment son compte pour pouvoir venir. Et il nous a confié à nous, chrétiens, de faire le travail pour qu'on atteigne cet objectif. Je le sens un petit peu comme ça. Et alors ce jour-là, il dira, c'est bon, ça y est, maintenant, c'est prêt, je peux y aller. Alors, dans notre travail, oui, quand je le sens comme ça, ben, hâter la venue du Seigneur, nous mettons au travail en nous-mêmes et pour les autres, et bien plus vite, il reviendra. On dit souvent que la vie d'un chrétien, ce n'est pas, le but du chrétien, n'est pas justement d'atteindre un but, mais il est de marcher vers un but. Et toute notre vie, jusqu'à notre mort, nous devons marcher. Marcher vers ce but qui est Jésus-Christ, qui est la grâce de Dieu, qui est le royaume des cieux. Eh bien, c'est un peu la même chose. Vous voyez, quand je dis efforcez-vous, sur cette terre, on n'arrivera jamais au bout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient à notre rencontre, c'est Jésus. Donc, pas de panique, nous, on peut se dire avec certitude que par nos forces et par notre volonté et tout notre amour pour le Seigneur, on n'avancera jamais très très loin. Peu importe, Jésus lui remplit la distance et il vient à notre rencontre. Et on a ce jour où, ça y est, il est là, il arrive. Et c'est le dernier jour, c'est le jour du jugement dernier. Mais c'est lui qui aura fait l'essentiel des kilomètres, n'est-ce pas? Et bien ça, c'est quelque chose de très rassurant. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué pour cette grâce qu'il nous offre, et avec en plus tout ce qui va autour, c'est-à-dire cette facilité, j'allais dire. Vous êtes faible, mais moi je suis fort pour vous. Cette tendresse qu'il y a, que le Seigneur a pour nous, nous sachant faibles, sachant que nous sommes poussières, il est dit dans la Bible, il tient compte de tout ça. Il dit, je fais avec, mais ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Mon retour vient bientôt et nous nous retrouverons dans le royaume des cieux. Amen.